Normalement.
Et je peux aller.
Tu peux y aller, carrément.
L'éditorialiste du Nouveau Monde, numéro du vendredi 6 juin 1975. Tout au début de son article intitulé Vers une tragique démission, a supposé le problème résolu, à savoir qu'on arrive à faire prévaloir le créole comme langue de culture nationale. Il y a lieu de préciser que le problème est mal posé au départ. En effet, cela supposerait qu'il existe une bataille à mort entre le français et le créole, ce qui n'en est pas du tout le cas. Ces deux langues ne sont nullement en guerre au sein de la communauté haïtienne. Si l'on devait parler de bataille, il faudrait plutôt la situer sur un autre plan. Le plan fondamental du combat que l'homme haïtien livre depuis plus de 150 ans à une réalité complexe. Car il s'agit au fond de surmonter des difficultés d'ordre pratique, de résoudre des problèmes matériels de tout genre, d'adapter par des mises au point successives, jamais définitives, des outils capables de nous permettre d'appréhender pour le mieux le réel auquel nous sommes obligés de nous colter chaque jour pour que le pays tout entier poursuive de petit pas en petit pas sa route à côté des autres nations attelées elles aussi à la grande tâche de la civilisation humaine dont le but principal est d'aménager plus de lumière pour notre petite planète, la Terre. Dans cette perspective, toute langue constitue un outil à l'usage d'une communauté. Et cette langue se révèle un outil d'autant plus efficace qu'elle constitue, qu'elle est le véritable et le principal véhicule de pensée d'une collectivité entière, et qu'en dehors d'elle, toute une agglomération d'hommes se verrait condamnée à un mutisme absurde. Autant dire que si le français nous est utile à certains niveaux, le créole, langue de la majorité, l'est encore davantage. Nous ne pensons pas que ces deux langues doivent être nécessairement en conflit, mais qu'elles se complètent au contraire dans un système fonctionnel à ce point souple et varié qu'elles débouchent toutes deux ensemble sur une coexistence fructueuse. Nous rappelons que le problème est mal posé. Selon nous, si le français est institutionnalisé langue officielle d'Haïti, le créole est et demeure notre langue de culture nationale. Le deuxième point soulevé par l'éditorialiste du Nouveau Monde, toujours dans le même article, c'est que si le créole arrive à être accepté dans notre milieu, les efforts de plus de 150 ans seraient anéantis en un clin d'œil, et à quoi bon les écoles, puisqu'il ne peut plus être question d'enseigner une langue déjà connue. Une telle opinion nous paraît erronée. En effet, les écoles n'auraient-elles pour objectif que l'enseignement des langues? D'autre part, n'apprend-on pas à l'école sa propre langue maternelle? Autrement, il faudrait croire que les manuels de grammaire, de stylistique, les dictionnaires de langue française ne sont d'aucune utilité pour les Français. D'ailleurs, dans la mesure où les peuples se rapprochent chaque jour davantage, l'étude des langues étrangères, si nécessaire à notre époque, s'avérerait quasi impossible sans la connaissance préalable et la maîtrise de la langue maternelle. La formule pédagogique de Pestalozzi est évidente, du connu à l'inconnu. Le troisième point, c'est que l'éditorialiste souligne les inconvénients du créole, puisque les manuels, les traités, les revues, les journaux ne sont pas rédigés en patois. Nous devons souligner que cette situation reflète une des difficultés primordiales que toutes les langues ont rencontrées dans le processus de leur développement. Aucune langue n'a eu de littérature donnée une fois pour toutes. Dans le contexte de toute langue, la littérature a toujours pris naissance dans la douleur, à partir des matériaux linguistiques fournis par le peuple. Et elle s'est développée par la suite dans l'utilisation et la stylisation des matières premières, des matières brutes de la réalité quotidienne. La rédaction et la vulgarisation des livres, des journaux et des revues n'est qu'une étape dans l'évolution d'une langue. Et cette étape n'est pas infranchissable, alors pourquoi le serait-elle pour le créole? Qui ne connaît l'itinéraire douloureux qu'a suivi le français avant d'atteindre à ce degré d'affranchissement, d'épuration et d'enrichissement continu? On retiendra que pendant plusieurs siècles, les publications en France étaient rédigées exclusivement en latin et que le français était alors tenu en piètre estime. Sans le travail courageux accompli au niveau de l'emploi des mots, de la grammaire et du style par Dubélé, Ronsard au XVIe siècle, contre les latinisants qui brimaient la langue populaire, en l'occurrence le français, et qui la considéraient comme dépourvue de toute vocation littéraire, sans l'œuvre de consolidation de Malherbe au XVIIe siècle, sans l'approfondissement de l'école classique, que serait-il advenu de la langue française? L'éditorialiste souligne encore que les conséquences et les inconvénients du triomphe du créole ont été examinés avec lucidité par plus d'un compatriote soucieux du prestige du peuple haïtien. Une telle affirmation implique que l'usage du créole par le peuple haïtien affecte le prestige de celui-ci. Tout se passe comme si l'éditorialiste insinuait que l'emploi de notre vernaculaire serait une souillure, une éclaboussure, un déshonneur. En outre, l'éditorialiste souligne que le créole présenterait des inconvénients sur le plan de nos relations internationales. Là encore, l'opinion est erronée. Au fur et à mesure que le créole évolue dans un contexte de développement général de notre pays, où nous aurons beaucoup à offrir, tant sur le plan économique que sur celui des relations humaines, l'étranger réalisera la nécessité d'apprendre notre créole. Déjà, plusieurs centres de recherche s'intéressent à notre langue populaire. À un autre passage de l'article, l'éditorialiste a souligné que les langues internationales seraient des langues de civilisation. Et à ce point de vue, nous estimons qu'une mise au point est nécessaire. Il y a lieu de se demander avec inquiétude si les communautés qui n'utilisent pas les langues internationales sont des sociétés barbares non civilisées. À ce compte, ne faudrait-il pas envisager un recyclage en sociologie pour savoir le sens réel du mot civilisation? Or, on a besoin d'être clair pour comprendre que la civilisation est un phénomène humain collectif. D'ailleurs, l'encyclopédie qui est ne précise-t-elle pas qu'il y a autant de civilisations qu'il y a de groupes sociaux concrets distincts dans l'espace et dans le temps? Il existe donc, à notre sens, une civilisation haïtienne indépendamment de la pratique du français. Quelque part encore, il souligne qu'une proportion de privilégiés sont parvenus à voler la langue de l'ancien maître et qu'à partir de ce moment, ces dix privilégiés commencèrent à s'apitoyer sur la condition des masses incapables d'appréhender comme eux les subtilités du français. S'il s'agissait de fermer aux masses l'accès du français, ce serait sans aucun doute de l'obscurantisme, mais il n'en est nullement question. Plaider pour l'évolution du créole n'implique le moindrement la mise au rencard du français. Au contraire, nous estimons que la maîtrise de la langue maternelle facilite l'accès à des langues étrangères. Qui plus est, il est même souhaitable que le créole joue à l'avenir le rôle de visa linguistique, qu'il ouvre à la communauté haïtienne des frontières d'autres langues, de plusieurs langues. Du reste, comment saisir les subtilités du français si l'on ignore sa propre langue? Il ajoute que les privilégiés ne croient plus que des fils de paysans et d'ouvriers puissent accéder comme eux à la culture. Et j'insiste sur le mot culture. Encore une erreur de la part de l'éditorialiste. Décidément, c'est accuser une conception étriquée du vocable culture. L'un des fondateurs de l'ethnologie, Edward Taylor, ne définit-il pas ce mot dans son ouvrage « Primitive culture » ? Ce tout complexe qui comprend la connaissance, la croyance, l'art, les mœurs, les coutumes et tous les autres talents et habitudes acquis par l'homme en tant que membre d'une société. À ce titre, ce serait une aberration de dénier toute culture aux masses paysannes et ouvrières qui, tout au cours de leur combat quotidien, ont toujours fait preuve d'une culture fonctionnelle, riche d'expérience, qui n'est nullement inférieure à la culture au sens ou l'entend éditorialiste. En effet, les masses paysannes ont su aménager intelligemment un mode de vie en fonction de leurs conditions d'existence. Et pour ce qui est de la culture mandarinale, échafaudée sous des jongleries livresques, il est opportun de convenir qu'elle a aussi des aspects négatifs, tout en précisant que les masses paysannes et ouvrières ont droit à d'autres formes de jouissance telles que la lecture, l'écriture, le cinéma, etc., dans ce qu'ils ont évidemment de positif. Donc nous ne faisons pas de la connaissance du français notre apanage. Loin de nous l'idée de garder jalousement, égoïstement, le monopole du savoir acquis sur les bancs de l'école. Au contraire, nous aimerions écourter le chemin qui doit conduire nos masses vers la culture universelle. L'éditorialiste a mentionné, a insisté sur la dégringolade constatée dans le pays et à partir, disons, de cette montée du créole. Il a même ajouté que, au train où cela va, dans un proche avenir, il sera de plus en plus difficile de trouver des gens habiles, soit à écrire une bonne lettre, soit à préparer un discours valable, soit à rédiger un procès-verbal ou un rapport irréprochable, soit à composer un texte de longue durée intéressant. Tout cela est sous la plume de l'éditorialiste. D'abord, on ne va pas à l'école que pour apprendre à rédiger des lettres, des procès-verbaux, des rapports irréprochables, des textes de longue durée. Serait-ce là le but fondamental de l'école dont l'objectif est autrement supérieur? Toujours une erreur regrettable. Ensuite, nous, professeurs, nous admettons qu'il y a une crise au niveau de l'enseignement. Mais cette crise n'est pas spécifiquement haïtienne. Elle existe à l'échelle mondiale. Nous en voulons pour preuve la crise de mai 68 éclatée au niveau de l'enseignement secondaire et universitaire en France. Presque toute l'Europe a été semblablement bouleversée. Qu'on ne fasse pas dans notre pays du créole le bourricot des animaux malades de la peste. La dégringolade constatée chez nous n'est nullement imputable au créole, d'autant plus qu'elle se manifeste également dans toutes les autres disciplines, telles que les mathématiques, la chimie, la physique, etc. Nous vivons une époque de remise en question des valeurs à l'échelle internationale. Les jeunes ne sont plus motivés relativement à un système pédagogique qu'ils jugent suranné. Leur refus d'assimiler le bouillon réchauffé que nous leur servons depuis plus de 50 ans traduit le malaise profond qui règne à l'échelle mondiale. Le monde se débat douloureusement dans les raies d'une crise générale de transition. Et la boutade de Paul Valéry se justifie éloquemment. Nous, civilisation, nous savons que nous sommes mortels.
Franck-Étienne, j'ai bien noté tes différents points. Les différents points que tu as soulevés pour tenter de rétablir la vérité, qui est ta vérité, sur cette question épineuse débouchant sur l'éditorial du Nouveau Monde, tragique démission. Le premier point, tu insistes sur l'erreur fondamentale de l'éditorialiste concernant la langue nationale. L'éditorialiste dit, si le créole devenait du jour au lendemain la langue nationale. Et tu as raison de préciser que le créole est déjà la langue nationale du peuple haïtien.
Oui, le français insister sur un mot, c'est qu'il a employé le mot de culture nationale. Là encore, c'est plus grave. C'est que le créole est parlé par tous les Haïtiens et 90% d'Haïtiens ne parlent que le créole.
Voilà donc une vérité, voilà un fait d'observation contre lequel l'ignorance de l'éditorialiste tente de mettre une sorte de voile, de rideau de fumée. Le créole est la langue nationale du peuple haïtien, c'est un fait indéniable. Le français a été institué langue officielle, et de cette différence sémantique entre officiel et national, l'éditorialiste croit voir un combat, une lutte entre les deux moyens d'expression de l'haïtien. Je crois qu'il faut revenir sur cette notion et essayer de l'enrichir, l'approfondir de ton expérience de pédagogue, d'enseignant, ton expérience, disons le mot, d'intellectuel, mais pas seulement cela, ton expérience aussi de romancier et de poète, donc d'artiste. À ces différents titres, Franck-Étienne, tu dois, je crois, nous donner plus d'informations sur, non ta position personnelle, parce que je ne veux pas que de ce dialogue que j'aurais aimé ouvert à un débat général de haute tenue, il sorte seulement « moi je suis pour, un tel est contre ». Ce n'est pas le problème qui se pose.
Ce n'est pas le problème.
Voilà, il ne s'agit pas de voter pour ou contre. Il s'agit seulement d'apporter des éléments à un débat très large qui intéresse le développement humain, culturel, technique de notre collectivité. Alors, la question du créole et du français. Quelle est, selon toi, la position du français par rapport au créole et du créole par rapport au français dans ces différents champs d'activité qui constituent ta vie quotidienne et ta vie tout court, ta vie d'homme.
C'est-à-dire que d'abord, comme pédagogue, comme enseignant, ce que j'ai constaté, c'est que fondamentalement, l'esprit du jeune haïtien est moulé dans le contexte de la langue créole. À tel point que lorsqu'on dispense un cours, qu'il s'agisse d'un cours de mathématiques, d'un cours de physique ou d'un cours de sciences naturelles, et ça dit que là j'ai une certaine expérience puisque j'enseigne les mathématiques depuis quelques années, j'ai toujours remarqué une certaine lourdeur de la part des élèves à expliquer un texte de mathématiques, à comprendre d'abord le libellé du texte, et ensuite à s'exprimer convenablement en français. Et toutes les fois qu'il m'arrive de faire un coup de pied, comme on dit, dans notre langue vernaculaire, dans le créole, j'ai constaté qu'à partir de ce moment, la lumière jaillissait. Et je l'ai constaté systématiquement. C'est pas de nos jours que j'ai constaté. J'ai fait l'expérience au lycée de Pétionville où j'ai enseigné il y a une dizaine d'années. J'ai fait l'expérience chez moi, je l'ai fait au collège et Elliot Pierre. C'est toujours la même constatation. On dirait qu'il y a un cran d'arrêt lorsque nous évoluons sur le plan du français. Et chaque fois que l'on passe, que l'on essaie, n'est-ce pas, de faire des incursions dans le créole, les élèves devenaient immédiatement plus à l'aise.
Plus réceptifs.
Plus réceptifs.
Il y a là une petite équivoque à lever, Franck. Faisons la comparaison. Parce que dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, on pourra dire « Ah, mais c'est parce que l'élève en question a un esprit lourd, inférieur, embrumé des vapeurs de... » Mais faisons la comparaison. Prenons un jeune Français. Un jeune Français de classe moyenne, fils de fonctionnaire modeste, et envoyons-le aux USA. Dispensons-lui, après 2 ans d'acclimatation plus ou moins bénéfique et fructueuse avec la langue américaine, dispensons-lui un cours de mathématiques au niveau des classes auxquelles tu t'adresses. Ouais. Est-ce que la réaction ne sera pas la même, selon toi?
Je crois que la réaction,
la réaction sera la même. Le cours de mathématiques dispensé en américain à un petit Français de classe moyenne qui n'a jamais eu l'occasion d'échanger vraiment des choses essentielles et profondes en américain sera aussi mal reçu par lui que le cours de mathématiques dispensé à un jeune haïtien de classe moyenne du même niveau.
Oui, non, c'est ça, parce que je crois qu'il y a une articulation nécessaire qui doit se faire pour que la pensée puisse s'exprimer clairement. Il y a une articulation qui doit se faire entre les éléments que l'on veut dispenser, que l'on veut fournir, entre les matériaux que l'on veut donner à l'élève, et maintenant le contenu, tu vois, le contenu, c'est-à-dire les éléments de la matière, les éléments de la discipline que l'on veut faire passer, mais il y a quand même une forme, voyez, pour charrier ces éléments.
En d'autres termes, il y a une articulation entre l'inconnu et le vécu.
Et le vécu. C'est-à-dire que cette articulation, je pourrais la comparer au mouvement d'une clé dans une serrure.
Très bien.
Tu vois,
donne cette comparaison.
Oui. La clé dans la serrure, eh bien, il y a à la longue une habitude qui se crée
entre la peine, le mécanisme de la serrure et le dessin de la clé. C'est
toujours la question d'adaptation qui est à la base même de la culture.
Et donc de l'éducation.
De l'éducation.
Oui, très bien. Bon, alors ceci étant précisé, Franck, tu as parlé donc de ton expérience et c'est très important parce que tu n'as pas choisi l'exemple de la littérature et de l'enseignement de la langue elle-même, techniquement. Tu as parlé de ton expérience d'enseignant de sciences mathématiques et naturelles. Et c'est un excellent niveau, car cela nous permet de voir justement le passage de l'esprit du gosse, du vécu quotidien, à l'inconnu des sciences dispensées, des informations dispensées. Très bien. Mais le deuxième problème évoqué par toi est le suivant. tu dis que il n'y a pas de lutte. En fait, il n'y a pas de lutte entre créole et français. Pourtant, dans ta précision liminaire, ton avant-propos, ton avertissement, tu insiste sur le fait que l'homme haïtien est engagé, lui, dans une lutte. Ce n'est pas une lutte de langue, c'est une lutte de production de la vie et de production des moyens pour vivre, c'est bien cela.
Oui, c'est bien
ça. Comment, justement, dans cette lutte de production de la vie, de production des moyens d'existence, comment intervient la question de langue, selon toi?
Mais la question de langue intervient parce que la langue est aussi un outil qui permet à une communauté d'avoir, disons, d'appréhender le réel. Et à ce niveau, nous pouvons évoquer le fameux mot de Hegel, la ruse, qui est à la base de la culture de toute communauté. Il y a ce que je pourrais appeler un ensemble de techniques matérielles aménagées par quelqu'un, par un groupe social, pour se saisir du réel et le transformer pour le mieux. Ce qui fait que la langue intervient à ce niveau comme un instrument permettant à une communauté donnée de comprendre, de poser les éléments d'un problème. Et à partir du moment où le problème est posé, la solution se réalise d'abord au niveau de la langue, comme, non seulement comme instrument qui permet d'appréhender le problème, mais encore comme instrument de communication, car il n'est pas question de problème individuel, il s'agit d'un problème collectif. Comment le peuple haïtien en entier pourra parvenir à résoudre ces problèmes? Or, on peut prendre des exemples pratiques. Un exemple, disons, dans le domaine de l'agriculture. Les paysans haïtiens, depuis 1804 et même avant, ont eu à lutter, à se colter à la réalité naturelle, c'est-à-dire une nature le plus souvent hostile. Et s'ils sont parvenus à faire passer leurs expériences, il y a une véritable chaîne qui est établie entre les générations, qui est constituée entre les générations, c'est que je crois que ces expériences, même au niveau agricole,
sont transmises
par l'intermédiaire, disons, de cette langue, de c'est pas un jargon, mais disons, le créole permet ainsi à toute une communauté de rendre, d'avoir conscience plutôt que le problème est commun, que le problème existe et qu'on peut le résoudre d'une façon donnée.
Et tu disais tout à l'heure que la langue est un outil qui permet d'appréhender, donc d'analyser, donc de déceler les différents éléments de cette réalité qui nous entoure, sur laquelle nous devons agir. Et la langue est encore un outil qui nous permet d'agir. Donc, élément d'analyse et élément d'action sur...
D'intervention.
Bien, alors ceci est bien précisé, et à ce niveau, le créole joue son rôle et doit continuer à le jouer. Mais l'autre aspect du problème que tu as soulevé au début, puisque nous nous engageons en ce moment dans la discussion sur le fond, est la crise générale de l'enseignement vécu par l'Occident, et tu as évoqué mai 68 en France et aussi en Europe occidentale. Là, je crois qu'il faudrait un petit peu préciser que le pédagogue, l'enseignant que tu es, Franck Étienne, précise pour l'auditeur en quoi consiste pour Haïti cette crise de l'enseignement. Où y a-t-il contradiction entre le système d'enseignement et la clientèle enseignée dans les besoins, dans ce qu'elle réclame de l'enseignement? Où se situe la contradiction?
Oui, la contradiction se situe... Et à partir du moment où il y a ce que nous pourrions appeler un changement de plan, c'est que autrefois le système d'enseignement, bien entendu qui est encore actuel, puisqu'il faut préciser que le système d'enseignement en cours date de plusieurs années.
Et même de plusieurs décades.
Or, qu'est-ce qui arrive? Autrefois, ce système, fonctionnait convenablement. C'est que c'est un système d'enseignement orienté vers l'élitisme. On pouvait former, disons, une douzaine d'étudiants pour les lettres. Je pourrais même dire, disons, que cet enseignement est orienté
vers la culture de salon. Il était facile pour 5 ou 6 éléments provenant de classes aisées, d'origine aisée.
Pourquoi d'origine aisée, oui.
D'origine aisée, il leur était facile de s'acclimater à cette forme d'enseignement. Or, il arrive que depuis 1946, et cela depuis les 15 dernières années, j'ai le constaté moi-même dans mon école, la clientèle augmente considérablement. Il y a une véritable poussée quantitative. C'est que dans une école, il n'est pas rare de rencontrer 70-80 élèves dans une classe. Et là encore, on est obligé chaque octobre de refuser des places à des enfants venus de la province qui aimeraient, n'est-ce pas, et qui sont venus se faire inscrire. Ce qui fait que, à partir de cette poussée quantitative, nous sommes en présence d'une clientèle nouvelle. D'une clientèle nouvelle...
Venant de classes différentes de la
société. Venant de classes différentes de la société. Et venant, pour ce qui me concerne, à 80% des provinces. Ce qui fait que ce système d'enseignement, l'enfant ne peut pas s'adapter facilement à ce système d'enseignement. Et je peux prendre un exemple. Et dans le vieux moule traditionnel de l'arithmétique, on enseigne à l'enfant le mètre carré, le décimètre carré, ils ont les mesures traditionnelles que nous connaissons. Or, cet enfant venant de la province a l'habitude, plutôt disons, d'autres mesures. Il est habitué à pilser.
Habitué à pilser, habitué à grosse huile, habitué avec marmite du riz, habitué avec marmite maille moulin, avec l'onne toile.
Il a acheté un poule, il a acheté poule là sous livre, il pèse poule là, il prend pèse poule là. Donc, l'enfant maintenant se sent dépaysé. On lui apprend des notions dont il n'a pas le sens.
Qui ne répondent pas au vécu de sa vie quotidienne.
De sa vie quotidienne.
Très bien.
Oui. Donc, à ce niveau-là, il y a un véritable déphasage. Il y a une différence de phase. L'enfant s'attache, et cela c'est plus qu'humain, il s'attache à son vécu. Et il est même retenu par le vécu. Et on lui demande de faire un bond, n'est-ce pas, au septième ciel. Et quand il arrive à force, disons, d'intelligence, parce qu'il y en a qui sont réellement intelligents, qu'à force d'intelligence, à force d'acrobatie, ils parviennent à ce niveau, à ce septième ciel, il y a quand même une certaine frustration.
Il y a certainement une frustration profonde.
Il
y a à ce moment-là le refus du vécu à cause de l'assimilation de l'inconnu.
De l'inconnu, c'est ça.
C'est un phénomène extrêmement grave. Je suis heureux que, comme enseignant, tu le signales au niveau, par exemple, de l'arithmétique. Mais est-ce que cela se produit tu donnes un exemple précis qui est un exemple de détail du programme. Mais est-ce que l'ensemble du programme, dans sa conception générale, totale, n'est-il pas... dirigé vers une autre clientèle que celle qui, en fait, la reçoit. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond même, du système d'éducation nationale en Haïti, tel qu'il est conçu actuellement, une sorte de déphasage général ?
Déphasage général, même au niveau du français. J'enseigne le français en classe de rhétorique. Et un enfant de 17 ans, un après-midi, pendant que je dispense un cours sur Lamartine, brusquement, il s'est levé, c'est pas du banc, pour me dire, monsieur, à quoi ça va nous servir d'apprendre le lac
de la Martine.
L'automne de la Martine.
Bien. Cette question, Franck, c'est une question que l'on retrouve depuis quelque temps sur les lèvres de nos élèves, à propos du lac de la Martine, à propos des Misérables de Victor Hugo, à propos aussi du latin, du grec, à propos d'un tas de disciplines
et
enseignées.
À ce niveau, s'agissant du français, je crois que c'est bon signe. Il est un fait que quelqu'un a souligné, qu'un journaliste, professeur, a souligné les inconvénients à partir du fait, certains inconvénients à partir du fait que les enfants, que les étudiants haïtiens maintenant s'intéressent à la littérature haïtienne. Moi, je crois que c'est bon signe. Les enfants s'intéresse à la littérature haïtienne, non point parce que le programme de littérature haïtienne est plus court, parce que c'est facile de dire que les enfants s'intéressent à la littérature haïtienne parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pages à étudier. Peut-être qu'il y a cet aspect, mais je crois que fondamentalement, ils se retrouvent, quand ils étudient Oswald Durand, ils ne se sentent pas dépaysés, ils sentent qu'ils sont chez eux, qu'ils ne sont pas en terre étrangère.
Ce serait peut-être l'occasion, Franck, de signaler. Je ne dis pas de déplorer, je ne peux pas te porter à déplorer puisque tu es directeur d'une école. De signaler l'anachronisme, selon moi, du fait que depuis quelques années, il y a une sorte de petit jeu de balance qui s'opère au niveau du baccalauréat entre la littérature haïtienne et la littérature française. Ce tirage au sort n'est-il pas en définitive une façon de faire un mauvais sort à la littérature haïtienne au niveau des examens? Qu'est-ce que tu en penses?
Je crois que c'est à ce point de vue, et c'est pas seulement un mauvais sort qui est fait à la littérature haïtienne, c'est aussi un mauvais sort qui est fait à la formation littéraire.
Ah, ça c'est intéressant.
Oui.
Franck, ça c'est intéressant. J'aurais aimé que tu me dises comment et pourquoi.
Parce que psychologiquement, l'enfant attend que le tirage au sort soit fait pour étudier sérieusement l'une ou l'autre matière.
Et à ce moment-là, c'est
le travail du professeur. Exactement, le travail du professeur est handicapé à ce moment-là. L'enfant vous dit qu'il attend la littérature haïtienne parce qu'il ne va pas à l'école normale supérieure étudier les lettres. Il va étudier l'agronomie ou bien il va aux États-Unis, il va étudier les maths. Donc il n'est pas question pour lui de se bourrer, n'est-ce pas, la tête de notions dont il n'a pas besoin. Donc vaut mieux qu'il attende un mois avant les examens, que le tirage au sort se fasse. À ce moment-là, il saura quoi s'en tenir.
Et en un mois, il va préparer une dissertation. C'est-à-dire il va se bourrer le crâne pendant 30 jours. Mais deuxième aspect d'une chose que tu signales en passant, et qui est très significative, de plus en plus, l'enfant que tu as en main demande à ses maîtres à quoi sert l'enseignement. Tu as dit à quoi sert Lamartine. L'enfant se pose déjà la question, je vais faire telle chose dans la vie, à quoi me sert telle discipline pour arriver à tel objectif. Il y a là une interrogation qui semble futile, qui semble liée à la facilité des études, mais qui au fait renvoie à une angoisse profonde de l'adolescent qui prépare sa vie. Est-ce que nos éducateurs n'auraient pas intérêt à se pencher davantage sur ce problème et essayer d'y trouver une solution? Est-ce que, au niveau d'un certain tronc commun, il ne faudrait pas, à un certain âge, poser le problème de la destination de l'enfant? À quoi se destine-t-il et le préparer à cette fonction qu'il va remplir? Ne crois-tu pas que cela pose encore le problème essentiel de l'éducation nationale en Haïti?
C'est-à-dire que l'enfant, réellement, là tu as raison, l'enfant ne réalise pas que l'enseignement qu'on lui fournit peut lui servir, doit lui servir d'arme de combat. Il sent que ce à quoi il va se colter demain réclame une mobilisation de ses possibilités. Or, l'enseignement que nous dispensons aux enfants, cet enseignement produit ce que nous avons dit tout à l'heure, une sorte de coupure. L'enfant se demande dans quelle mesure ce qu'on lui donne, eh bien, il va l'utiliser à l'avenir. Il ne réalise pas, et là, c'est pas de leur faute. L'enseignement et garde encore un caractère théorique où il s'agit de se mettre le plus de pages dans le crâne, quitte demain dans la vie à se débrouiller maintenant avec des ressources personnelles, mais sans que l'instruction reçue à l'école joue pour quelque chose.
Ah, voilà qui est important. Et en essayant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que nous n'allons pas découvrir, et revenir ainsi à la question du français et du créole, est-ce que nous n'allons pas découvrir une fonction parfaitement artificielle que remplit l'éducation en Haïti, quoiqu'elle soit apparemment essentielle, qui est la fonction du transfert de classe. Cet enseignement reçu, accepté et parfois désiré par les parents, ne signifie-t-il pas pour certaines classes moyennes et des milieux paysans une façon pour les parents de permettre à l'enfant demain de ressembler à un monsieur qui parle français, qui s'exprime en français et qui en définitive a reçu une éducation parfaitement inadéquate à la fonction qu'il doit remplir dans la société?
Oui, là, il y a une remarque que je dois produire, c'est qu'une fois, un parent est venu à la direction de mon école. Il suivait de loin un cours et le professeur de temps à autre, selon mes instructions, passait du français au créole. Et ce parent a été choqué parce qu'il m'a précisé qu'il a envoyé son enfant à l'école pour apprendre le français. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est que c'est un enfant qui ne doit pas ressembler à ses parents. C'est un enfant, même s'il vient de la province, il ne doit pas ressembler à ses frères paysans. Et nous sommes à ce moment-là contraints de former et des éléments à part dans la société haïtienne. Car, enfin, nous devons le reconnaître, la société haïtienne, ce n'est pas cette petite minorité, comme l'autre l'a dit, de privilégiés. C'est l'ensemble du pays, ce sont les masses paysannes, ce sont les masses ouvrières. Or, voilà que l'enseignement haïtien tente à couper le jeune haïtien des masses haïtiennes, tente à couper le jeune haïtien de ses racines, de ses propres racines.
Et nous rejoignons là l'éditorial qui, justement, renvoie aux partisans d'un enseignement plus proche de la langue nationale l'argument suivant lequel, si vous enseignez, si vous développez la langue nationale, eh bien, vous privez le jeune paysan de la possibilité d'avoir accès à ce galon social qui s'appelle le français. Est-ce que cet argument que l'on nous renvoie constamment à la face est encore valable au moment où nous avons besoin de nourritures essentielles pour le développement de notre collectivité? Est-ce que cet argument est encore valable? Est-ce que l'éducation doit encore préparer des êtres, l'éducation nationale doit encore préparer des individus à parler français, écrire des procès-verbaux, écrire une lettre et rédiger de beaux discours? Car ceci est ancré dans l'esprit de milliers, de centaines de milliers de parents et d'individus.
Je crois qu'à l'époque où nous sommes, à ce niveau de l'évolution du pays où nous sommes, il ne s'agit pas de former des êtres à part, de former de rares modèles d'éléments d'haïtiens cultivés dans le sens le plus livresque, mais il s'agit plutôt de mobiliser la conscience nationale, de réaliser une soudure au niveau collectif. Et cette soudure, cet assemblage, cet agglomérat au niveau collectif n'est pas possible dans le cadre de l'enseignement traditionnel. Il s'agit, à partir d'un enseignement articulé en fonction des conditions d'existence du pays, il s'agit de former des éléments qui seraient liés encore à la collectivité et conscients des besoins réels de la collectivité.
Là, il est important pour l'auditeur qui nous écoute d'être informé de la situation internationale, comme tu l'as fait tout à l'heure. Lorsque l'on se réfère à la question du français et du français indispensable en fonction de la promotion des masses paysannes et ouvrières, indispensable, parce que comme un intellectuel partisan de cet enseignement en français, par le français et pour le français, nous le dit, la révolution doit permettre à l'homme de Maribaou d'envoyer son fils à l'école et que ce fils puisse écrire de beaux discours et écrire de belles lettres. Mais il faut préciser que ceci est une attitude héritée de notre mimétisme franco-latrique. Et que ce mimétisme franco-latrique est lui-même dépassé actuellement. Il ne serait pas nécessaire d'envisager l'éducation nationale aux États-Unis. On nous taxera d'américanophilie. Mais actuellement, dans d'autres pays du monde, qui sont eux au même stade de développement que nous, des pays africains, ou des pays latino-américains, ou des pays asiatiques, est-ce que l'éducation nationale qui est dispensée dans un pays comme l'Algérie, par exemple, qui a aussi le problème du bilinguisme arabe et français, consiste seulement à former des gens parlant une langue internationale, le français, ou cette éducation nationale dans un pays comme l'Algérie qui se développe, ne se destine-t-elle pas à des individus qui doivent occuper une fonction dans la société et remplir un rôle de production? C'est ça qu'il faut expliquer à l'auditeur en ce moment. Nous ne sommes pas un cas isolé, nous sommes un élément d'un ensemble. Que l'on aille à la Jamaïque en ce moment, ou à Trinidad, ou au Venezuela pour trouver les pays autour de nous, le problème est le même. L'université de West Indies forme des enseignants qui ne sont pas seulement de beaux parleurs.
Là, une petite parenthèse, oui. Jean, mm-hmm. Tu as mis le doigt dans la plaie ici, la plaie de l'enseignement. C'est que, à plus de 50%, et plusieurs enseignants en sont conscients, nous formons, nous préparons des jeunes pour l'extérieur, pour les pays étrangers. À telle enseigne, très souvent, reviennent les comparaisons entre l'enseignement haïtien, entre le niveau de préparation d'un jeune haïtien et le niveau de préparation d'un jeune français. Comme si, en Haïti, nous devions préparer des jeunes qui seraient appelés à briller à la Sorbonne, à briller à Paris ou bien à briller aux États-Unis. Ce qui fait que l'enseignement n'est pas articulé en fonction des besoins du pays, mais en fonction de certains prestiges que le jeune haïtien ferait montre, dont il ferait montre là-bas.
C'est extrêmement important et nous touchons là au nœud d'un problème parce que ce que tu dis là est dans la tête de centaines de milliers d'Haïtiens. Ils se disent, ah, il faut que mon fils puisse briller à la Sorbonne, que mon fils puisse briller à Montréal, que mon fils puisse être... Tandis que moi, je viens d'avoir une expérience toute récente, Franck, à Saint-Thomas, qui est une petite île, comme je l'ai dit à des amis, c'est du Croten Cabri en dimension par rapport à Haïti, même par rapport à la Gonave. Bon, une toute petite île. Et j'ai parlé à des responsables du College of Virgin Islands, qui est l'institut supérieur qui prépare des cadres pour les écoles de Saint-Thomas, de Sainte-Croix et de Saint-John. Quelle était la préoccupation majeure des dirigeants de cet institut? Ils m'ont répondu tout de suite, notre préoccupation majeure est de former de jeunes techniciens qui puissent résoudre le problème de l'eau. Parce qu'à Saint-Thomas, le problème de l'eau est un problème vital. Ils n'ont ni source, ni ruisseau, ni rivière, ni fleuve. Il n'y a pas d'eau. Il faut que le Saint-Thomien puisse résoudre le problème de l'eau. Il y a donc là, au niveau d'une communauté qui est au moins l'égale de la nôtre du point de vue développement, il faudrait voir si elle n'est pas supérieure à la nôtre du point de vue développement, un souci à races égales, ce sont des Noirs comme nous, à culture analogue, ce sont des Afro-Caraïbéens comme nous. À étape politique inférieure, ce sont des colonisés. Ils sont une colonie plus ou moins des États-Unis. Il y a là donc un souci majeur de faire de l'enfant un élément de la communauté, travaillant dans la communauté et capable d'agir sur la communauté, sur des problèmes spécifiques à la communauté. Je vois cette réaction, donc, je me suis promené dans cette université, j'ai vu toutes sortes de facultés, et dans toutes les facultés, qu'elles soient de lettres, de sciences, de techniques, il y avait ce souci commun de se pencher sur les problèmes de la communauté et d'étudier ces problèmes de la communauté.
C'est ça, en fonction des besoins de la
communauté. Des besoins de la communauté. L'éducation, l'enseignement doit permettre aux jeunes membres d'une communauté de s'intégrer à cette communauté et de la faire avancer. Alors on nous répondra, le vieil argument, oui, vous, nantis du savoir, qui parlez si bien français, Franck Étienne et Jean-Dominique, et nous venons de le prouver, bon, que nous pouvons nous exprimer en français, c'est pas que je parle bien le français, mais je m'exprime en français. On nous répondra, ah oui, vous voulez d'un côté avoir des gens qui parlent bien français et qui auront le haut du pavé, et de l'autre, avoir des hommes de main, des ouvriers, des contremaîtres, des cadres qui s'occuperont de choses basses et viles. Est-ce que tu pourrais, Franck, faire justice de cette accusation?
Non, c'est-à-dire que là, il y a une question d'expérience générale qui ne se situe pas au niveau seulement de la langue. En disant question d'expérience générale, à savoir que si un aîné a pu
faire un chemin. Il a traversé un itinéraire. Itinéraire où il y a le désert, ou disons, où les configurations du terrain sont variées. Je crois que le devoir de cet aîné, qui ne serait pas un égoïste, ce serait de situer et de fixer pour les générations à venir les endroits les plus aptes à conduire ces générations le plus loin possible et en moins de temps possible. C'est que nous avons relevé les mauvais côtés de cette culture avec, enfin disons, dans le sens... culture entre guillemets. Eh bien, nous avons constaté certains des aspects négatifs de cette culture. Nous avons fait le chemin. Le chemin a été douloureux. Et si nous signalons les aspects négatifs, ce n'est pas pour barrer la route à ceux-là qui rêvent, disons, de se former, de se préparer. C'est plutôt pour leur faciliter la tâche. Il y a là une question de prise de conscience. C'est la prise de conscience des aspects négatifs d'un voyage que nous avons fait. Nous en sommes sortis essoufflés et nous avons dit, bon, là, il est question de mettre des poteaux, de mettre des pieux, de mettre des points de repère pour la mise en garde des générations futures.
J'ajouterai ceci, que mon expérience personnelle me prouve que le fait que l'on puisse, comme dans cet éditorial du Nouveau Monde qui a été l'objet de ce dialogue entre Franck, Étienne et moi, mon expérience personnelle a été celle d'un fils d'une certaine petite bourgeoisie où le français avait une certaine position privilégiée, bien que le créole fut parlé très couramment et très librement. Une éducation reçue dans le moule de ce que j'appelle l'ancien verbalisme franco-centrique, l'ancien verbalisme qui formait des enfants, des adultes, des adolescents capables de bien s'exprimer, de bien lire La Fontaine et Lamartine et Victor Hugo et Valéry, de bien l'interpréter et parfois aussi de faire des œuvres littéraires valables. Une éducation de verbalistes, ceux qui devaient utiliser le verbe et l'utiliser bien. Et l'on sait combien dans le passé, l'on disait d'un homme qu'il était bien préparé parce qu'il pouvait faire un beau discours. Et je me suis rendu compte, moi, à l'âge de 16-17 ans, de l'imposture de cette éducation que j'avais reçue, de maîtres d'ailleurs que je respecte profondément, de cette imposture. Parce que je me souvenais d'une chose à l'école. Je dis toujours, je viens de dire combien je respecte ces maîtres qui ont été des frères de l'instruction chrétienne. Je les respecte profondément pour leur courage, leur abnégation, leur générosité, leur sens du sacrifice et leur compétence et leur talent. Cependant, ils étaient à l'intérieur d'un système et ils fonctionnaient dans ce système. Et je me souviens qu'en 7e, 6e, un très bon frère, devant une classe de 30 élèves, parmi lesquels il y avait, comme on dit, des forts en maths et des forts en thèmes, et certains qui n'étaient ni forts en maths ni forts en thèmes. Et à ceux qui avaient de mauvaises copies en latin, par exemple, le frère disait, c'était une boutade, mais souvent les boutades, je ne le dirai pas au romancier et à l'utilisateur des mots que tu es, Franck, souvent les boutades sont la révélation d'un sentiment profond. Il disait, eh ben, si vous ne pouvez pas faire du latin, allez donc planter des patates. Je me souviens que quand j'ai dû faire mon choix après ma philosophie, c'était en 46-47, je me suis décidé, influencé en cela par toute l'école du roman paysan, il y a encore une influence littéraire, à choisir l'agronomie. Je voulais être un agronome, travaillant la terre, capable de donner le meilleur de lui-même pour la production agricole. Et après mon diplôme d'agronome, j'ai rencontré ce bon frère, ce cher frère de Saint-Louis. Il a dit, mais Jean, qu'est-ce que vous êtes devenu? On ne vous voit plus. Et il s'étonnait que je n'ai pas fait carrière dans les lettres. Je lui ai dit, non, cher frère, je me souviens avoir écouté votre conseil et j'ai été planter des patates. Cette boutade et cette anecdote est révélatrice du système lui-même. Sont sortis de Saint-Louis de brillants romanciers, de brillants critiques, de brillants journalistes, de brillants polémistes, de brillants littéraires. Aussi de brillants mathématiciens, de brillants scientifiques, c'est vrai. Mais le système fonctionnait pour alimenter l'école de droit, le barreau, la judicature, la magistrature, et aussi la médecine. Mais j'ai noté une chose, Franck, dans notre milieu, c'est que la médecine qui est en si grande vogue parmi les professions de choix est une sorte de point de rencontre entre la science et l'éloquence. Hein? Et là, souvent, ce qui attire le jeune vers la médecine, c'est moins la science que l'éloquence. Pouvoir poser un diagnostic et pouvoir, dans une famille, être... Mais ceci est une autre histoire. Donc, je me suis rendu compte de ce système. Et c'est parce que je me suis rendu compte de ce système que j'estime qu'il est de mon devoir d'ancien agronome, d'ancien donc, technicien et maintenant de publiciste, d'attirer l'attention sur les défauts du système. Et surtout d'insister sur le fait que le système secrète lui-même ses propres scories. Et l'une de ces scories est cette réponse absurde qui, selon moi, est une réponse que l'on peut analoguer à un racisme antiraciste. Oui, vous êtes sauvé, comme on dit en créole, ou sauvé parce qu'au compte l'an, et ou pavlé l'autre sauvé. Il y a un cercle vicieux du sous-développement culturel lié à ce système francolâtre.
C'est-à-dire que ça, c'est lié au sauvetage individuel. Cela n'a aucun rapport
avec
les besoins d'une collectivité.
Les besoins d'une collectivité. Bravo, Franck. Et d'autres points que je voudrais un petit peu éclaircir de ta déclaration et de ta réponse à l'éditorial, l'un est le suivant. Et nous avons évoqué justement cette question de faire de beaux procès-verbaux ou des discours.
Non, mais là encore, il y a une mise au point à faire. C'est accuser, c'est faire montre d'une étroitesse d'esprit de croire que l'on ne peut rédiger de bons procès-verbaux qu'en français.
Ah,
parce que actuellement, je fais une expérience en créole.
C'est ce que je voulais que tu dises, Franck.
Oui, je...
Laisse-moi un petit peu présenter cette expérience qui, pour moi, est sentimentalement très proche et très importante. Franck Étienne, comme vous le savez, c'est l'auteur de plusieurs romans, Chevaux de l'avant-jour et Ultra-vocal les plus connus. De plusieurs plaquettes de poèmes, tous en français. Et Franck Étienne, je le dis tout de suite, est un ami très cher. Je le dis en ce moment devant Franck Étienne parce que j'ai besoin aussi que ces choses sentimentalement soient connues. Et cette amitié, qui est une amitié qui s'est développée depuis de longs mois, de longues années, a porté justement sur les problèmes d'expression, sur les problèmes d'expression littéraire, sur les problèmes de création artistique, tant sur le plan de la littérature que sur le plan des arts. Et mes propres préoccupations d'enracinement haïtien, ce que l'on convient d'appeler avec moi la haïtianité, mes propres préoccupations, j'ai essayé d'en faire, de les faire partager à Franck Étienne. Et nous nous sommes souvent affrontés très durement sur la question de la langue. Franck, il faut le dire aussi, je m'excuse de toucher à ta modestie, Franck est quelqu'un qui étudie avec acharnement et qui est peut-être le seul de l'intelligentsia actuelle à connaître avec autant de précision, de détail, les courants les plus représentatifs de la pensée occidentale, de la critique occidentale. Je crois que Franck est l'un des rares spécialistes en structuralisme actuellement, il faut le dire. Bon. Il s'y connaît, il fréquente les librairies, il achète, il se documente, il bûche, il travaille. Et sous l'influence de ces nouveaux courants, et en cela, Franck ne rompt pas avec la tradition très haïtienne du regard tourné vers Paris. Donc si Franck parle en ce moment de ce francosystème avec autant d'esprit critique, ce n'est pas qu'il soit contre, il vient de ce francosystème, il y participe. Et donc devant cette connaissance vraiment encyclopédique qu'a Franck Étienne, d'une réalité que vit le monde actuel, une réalité tant économique, culturelle, raciale, sociale, littéraire, philosophique, Franck a été amené, puisqu'il aime son pays, il pète d'amour pour cette terre qu'il a engendrée, il a été amené à me rencontrer sur des problèmes d'haïtianité. Et l'un de ces problèmes, c'était la question de la langue. Franck écrivait en français. Vous connaissez ce bouleversant, tragique cheminement de macabre dans Ultra-vocal, cheminement à travers les rues et les avenues de notre pays, avenues dans le sens aussi bien architectural que culturel et national. Et je lui ai dit, Franck, tout ce que tu dis là un jour, Un jour, nous étions assis à notre bureau, à mon bureau, et je lui ai dit, Franck, tout ce que tu dis là un jour, c'est merveilleux. Seulement, il y a un problème. Cette vie que tu veux rendre, et que tu rends parfois avec tant de tragique dans la voix, elle n'est que pour quelques hommes. Elle n'est accessible qu'à quelques hommes. Je l'ai vu se hérisser immédiatement, parce que Franck est très sensible, et que tout ce qui atteint son moi intérieur, son moi profond, le touche tout de suite et le fait réagir. Et lentement, lentement, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, j'ai senti s'opérer le travail chez lui. J'ai senti chez lui s'opérer le besoin de la communication. Qui, comme cela se conçoit, besoin de communication avec les autres, se transmue en besoin d'améliorer l'outil de communication, de le mettre sur l'enclume, de le taper, de le ciseler, de le modeler. Et cette langue de Franck Étienne, qui était centrée autour du français, lentement, je l'ai senti d'ultra-vocal à ce dont il va vous parler en ce moment, se opérer la translation. Et un beau jour, nous étions à la plage, Franck et moi, il m'appelle, il me dit « Jean, je dois te remercier ». En fait, ces remerciements de Franck sont pour moi de pure forme. Je n'ai joué aucun rôle. Sa puissance créatrice, et vous savez que Franck est une force de la nature, sa puissance créatrice a tout fait. Je dois te remercier parce que je suis en train d'écrire un roman créole. J'ai sauté au plafond. C'était pour moi la révélation de l'année. Et c'était pour moi l'enchantement et l'éblouissement de tout un échange entre lui et moi. Et il m'en a lu quelques pages. Je ne veux pas révéler à l'auditoire qui sera bientôt lecteur de Franck Étienne et du roman de Franck Étienne, je ne veux pas révéler ce que un critique ne doit pas faire. Mais je dois dire tout de suite qu'il y a entre Diacoute de Maurice Auleroy, entre Antigone du même auteur, entre Le Festival de Paul Larrac, entre, je citerai, à l'infini les œuvres qui jalonnent déjà les premiers pas de notre littérature créole, et ce que j'ai entendu du roman de Franck Étienne, une différence essentielle, de nature. Je crois que, comme on le dit, il a parlé des Gaëls tout à l'heure, il y a là un bon qualitatif qui vient de se faire. Parce que Franck Étienne n'est pas seulement un intellectuel, ce n'est pas seulement un écrivain. Je crois que c'est un chercheur, j'allais employer le mot, c'est un alchimiste, dans le sens où le mot alchimie comporte le mot chimie. C'est un alchimiste du langage. Et c'est ainsi que je voulais présenter le travail qu'il va faire. Il se peut qu'il se trompe. Il se peut que moi je me trompe et que je sois ébloui par des faux semblants, des mirages. Mais le travail, presque mathématique, presque physico-chimique, biologique, presque d'intégration, d'analyse, de synthèse qu'il est en train de faire au niveau de la langue, est, je crois, quelque chose de nouveau. Alors je t'écoute, Franck.
Oh là, je remercie pour tous ces mots. Que tu as dit à mon endroit. Oui, je dois préciser que depuis que je me suis attelé à cette tâche que je considère comme immense, à cette tâche d'écrire un roman créole, j'ai fait plusieurs constatations. Compte tenu de mes expériences antérieures dans le domaine de l'écriture, j'ai écrit plusieurs plaquettes en français, plusieurs paquets de poèmes. J'ai écrit deux romans, Mieux à crever et Ultra Vocal. Et voilà qu'au moment même où j'ai tenu ma plume pour écrire en créole, j'ai constaté avec une certaine douleur, des fautes passées, douleur, disons, regret peut-être de n'avoir pas et choisi bien auparavant d'écrire en créole, et une certaine joie aussi, joie présente, de m'être engagé dans cette expérience valable, j'ai constaté que j'évoluais coupé relativement de mon peuple, coupé des problèmes de mon peuple. Toutes les fois que j'écrivais, et je crois que là c'est le cas de tout écrivain, il y a
un certain aspect peut-être hystérique dans l'acte d'écrire. On se cherche, on se recherche. Jusqu'à présent, je me cherche encore. Et lorsque je me cherchais en écrivant en français, je n'arrivais pas à me retrouver. Je n'arrivais pas à retrouver mes racines d'homme haïtien bien plantées dans le sol haïtien, dans la réalité haïtienne. Or, voilà que je me suis senti un peu soulagé. Il y a eu un certain apaisement à partir du moment où je me suis engagé dans l'expérience du créole au niveau romanesque. Non seulement je me retrouve de temps en temps dans mon œuvre actuelle, mais voilà que je ne me retrouve pas seul. Je me retrouve avec des problèmes à côté desquels je passais dans la vie quotidienne, à côté desquels je passais aussi dans l'expérience de l'écriture, sans les voir, sans les toucher. Et le miracle s'est réalisé au niveau de l'écriture, en manipulant, en jouant avec les mots créoles, en évoluant sur le plan linguistique, sémantique du créole, j'ai constaté que non seulement je retrouvais mon peuple, mais je ne pouvais pas fuir ces problèmes car ils me harcelaient à travers chaque page, à travers chaque mot. Et cela m'a amené à réfléchir aussi sur l'instrument, sur l'outil que j'utilisais, sur les matériaux. C'est ainsi que toute l'œuvre est traversée par une réflexion sur le créole. Réflexion sur le créole qui n'est pas restée au niveau théorique, mais qui renvoie en retour à une réalité bien précise, le drame du peuple haïtien. Et là, je dois te remercier, Jean, je ne veux pas dire davantage. Je crois qu'il serait mieux que je donne comme avant-goût la lecture d'une ou de deux pages, si possible.